L'écho des artistes du festival d'Avignon.
L'écho des planches part à la rencontre des artistes au gré de ses coups de cœur. Bonne écoute à tous sur l'écho des planches. Bonjour à tous. Alors je suis en compagnie de Maud Lepladec. Donc suite à la conférence de presse, nous sommes le 20 juillet. Je rencontre aujourd'hui Maud Lepladec pour son spectacle Grinsgeval Bordenline, donc en collaboration avec Guy Cassiers et d'après un texte d'Elfriede Jelinek. Bonjour Maud Lepladec.
Bonjour.
Alors j'ai vu le spectacle hier soir et j'ai été impressionné par l'hybridité du spectacle dont vous venez de parler dans la conférence de presse avec Arnaud Laporte. Et il m'est venu la question peut-être un peu banale et un peu simple de la transe dans le rapport qu'on peut avoir à la danse, parce que vous représentez des gens qui se noient. Qui se noie dans la mer et qui se noie aussi dans le monde. Le dispositif vidéo de Guy Cassiers, je trouve, montre des gens qui se noient dans le monde, et votre danse montre des gens qui se noient dans la mer. Donc il y a ces deux rapports finalement à la nature et à l'artifice de l'être humain. Et je me demandais comment est-ce que vous aviez réussi si justement à travailler cette dimension qui m'a vraiment parlé à moi en tout cas.
Mais c'est impressionnant parce que c'est incroyable en fait. Au fur et à mesure que je discute avec les spectateurs de la pièce, je m'aperçois que vous arrivez à toucher les racines profondes du projet, c'est-à-dire les sources d'inspiration à partir desquelles j'ai construit ces différents tableaux, puisqu'il y en a trois, mais des sources qu'elle soit iconographique ou purement imaginaire, que je n'ai jamais révélée en fait, ni même aux danseurs. Donc c'est assez fou de voir que finalement ça transparaît. Effectivement, moi j'étais obsédée. Alors vous savez, avec Guy Cassiers, en fait, on a travaillé à partir d'échanges de textes, d'échanges d'images. Et dans les images que Guy Cassiers m'a envoyées, il y a deux images qui m'ont particulièrement obsédé tout le long du projet, qui sont alors une image, comme vous dites très bien, de nature très douce, qui sont des images d'étoiles de mer posées sur le fond d'une mer, voilà. Et l'autre image, beaucoup plus morbide et beaucoup moins, je dirais, beaucoup plus dure, qui sont ces images de corps échoués, hein, que ça soit au fond des mers. Alors, il n'y a pas d'image en fait de ces migrants qui ont coulé, qui se sont noyés. Mais j'ai été moi traversée tout le long de ce processus par cette question qui était: où sont ces corps en fait? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et j'avais ces deux iconographies un peu antagonistes et un peu contradictoires, un peu même opposées, mais violemment opposées, de ces étoiles de mer posées au fond des mers et de ces corps, en fait, de ces corps en étoiles, comme ça. Et c'est de là qu'est venu ce premier tableau, en fait, hein, avec ces corps posés les uns sur les autres. Et effectivement, la difficulté du projet, ça a été, ou l'enjeu du projet dedans, ça a été d'échapper à l'illustration, d'échapper à l'image des migrants, d'échapper à l'image des migrants qui marchent, d'échapper même à l'image des migrants qui nagent. C'est-à-dire que ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça fait 3 jours qu'on me dit que les danseurs nagent, mais ils ne nagent pas, en fait. Je n'ai même jamais demandé. C'est des mouvements de bras, en fait. Donc, ce qui est absolument fabuleux, et c'est ça la magie du spectacle vivant, c'est que ce sont vos projections, c'est votre imaginaire, et c'est l'articulation entre ce que vous entendez et ce que vous voyez qui crée une troisième réalité, une troisième image, qui est celle de danseurs qui nagent, alors qu'en fait, ce mouvement vient d'un mouvement de danse, mais de danse urbaine, de house, en fait, que l'on fait dans les discothèques. Donc c'est vraiment très très éloigné de la nage. Mais par contre, ce que je vois et ce que vous voyez aussi, c'est effectivement ce mouvement répétitif et d'épuisement, en fait, de déplacement impossible, en fait. Voilà.
Effectivement, les images abondent dans le spectacle, et comme vous l'avez dit si justement pendant la conférence de presse, les mots manquent. Mais malgré tout, vous vous appuyez sur une partition scénique qui est celle d'une vraie littérature. Comment est-ce que le rapport au texte s'est fondé? Est-ce qu'il s'est fondé dans votre travail sur une expérience littéraire? Ou est-ce qu'en lisant ce texte, vous l'avez tout de suite projeté dans une expérience chorégraphique?
Très très juste ce que vous dites. J'ai tout de suite imaginé une traduction physique. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup lu, et comme je le dis souvent, je n'ai pas travaillé à partir du texte. J'ai travaillé à partir de ce que j'ai ressenti de ce texte, à partir de ce qui m'est apparu. Voilà. La danse prend en charge la physicalité du texte de Jelinek, le poids en fait de cette histoire, la charge émotionnelle qui se dégage de ce texte, mais que j'ai peut-être ressenti moi aussi à la lecture du texte, mais en ayant aussi besoin, comme Guy Cassirs on avait besoin dans l'élaboration de ce projet d'une certaine forme de distance. Donc il fallait que j'arrive à faire passer ces émotions, mais par le biais de l'abstraction. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est ce que je fais souvent en fait dans mon travail, je suis passée par des contraintes physiques réelles. Donc c'est une idée de Guy Cassirs d'utiliser en fait les poutres qui émanent du sol, de la scénographie du spectacle. Et j'ai décidé de les poser en fait sur les corps des danseurs qui eux-mêmes sont entassés les uns sur les autres, qui crée en fait une image à la fois poétique, puisque ces poutres se balancent. On parle d'un bateau, donc ça nous rappelle la surface de la mer, ça nous rappelle le bateau. Et en même temps, ce n'est pas un bateau, ce sont juste des poutres qui sont posées sur des corps. Et à la fois, on a la légèreté de la métaphore et en même temps la charge réelle de la poutre, parce que je vous défie de porter ces poutres qui sont vraiment très 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 lourdes. Et donc les danseurs doivent évoluer sous ces poutres, se déplacer, les porter, les remettre à terre, et en même temps le temps qu'ils prennent à le faire, qui est un temps de la transformation, aussi d'une image, mais aussi comme un rituel en fait. J'étais vraiment dans le rituel, je me suis dit. Et puis j'étais aussi, je me suis dit, ça doit être comme ces gens qui marchent, comme une migration. Ils doivent évoluer du fond de scène jusqu'au bord de scène en portant ces poutres. Et ces poutres doivent s'élever et rejoindre une autre image qui faisait partie des images, des iconographies que Guy a partagé avec moi, qui sont ces temples en fait. Ces temples grecs, avec finalement ces femmes, enfin ces statues qui portent en fait le toit des temples sur leur tête, comme on peut porter le poids du monde en fait sur nos épaules. Voilà. Et c'était voilà. Donc on avait, oui, vraiment, je dirais, la légèreté de l'imaginaire ou de la métaphore, et le poids du réel. Et le réel, c'est l'histoire que l'on raconte avec ces migrants. Voilà.
Justement, sur la question de l'iconographie, moi, ces planches ou ces poutres, ça m'a vraiment fait penser à l'Évangile. Quand Jean-Baptiste dit à propos du Christ, celui qui viendra après moi, je ne serai pas digne de lui porter sa planche. Et justement, ces migrants, j'ai vu un très beau documentaire, je ne me souviens plus le nom, sur quelqu'un qui a été à la rencontre des migrants, donc derrière les murs qui sont en Tunisie, et elle en a rencontré un qui lui a dit que les migrants, finalement, tous ces gens qui arrivent, il a dit, nous sommes les messagers de l'espérance. Et donc le documentaire porte ce titre, et j'ai trouvé que voilà, finalement, ces gens qu'on abandonne, ces gens qu'on laisse se noyer en Méditerranée, cette situation très grave qui ne fait que s'aggraver, qui ne s'améliore pas, qui ne connaît aucune forme de progression, voilà, qui n'est même pas stagnante, qui devient de pire en pire. J'ai trouvé qu'il y avait une dimension véritablement sacrée, comme si vous vouliez faire de ces migrants pas simplement des migrants, mais vraiment des symboles éminemment représentatifs de la souffrance de l'humanité. Et d'ailleurs, Guy Cassirs, à un moment, dans les écrans vidéo, c'est très subtil, c'est très fin, on voit des représentations religieuses. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait le lien avec tout ça?
Si j'avais pu en parler comme vous en parlez, ça aurait été super. Je l'ai fait, le lien, je l'ai fait vraiment de manière très sensible, de manière très empirique. C'est-à-dire que, bon, après, il y a la dimension religieuse dans le travail et dans les textes de Yelena qui est éminemment présente. Hein, c'est, voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de violence dans ce que l'on traverse tous, avec cette histoire-là. Et vous le dites très bien, c'est-à-dire que je dis souvent. Il y a quelque chose qui s'est passé, une histoire qui est en train de s'écrire, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi, je travaillais aussi au plateau avec une génération de jeunes gens, hein. Ils ont entre 17 et 21 ans. Et je me disais, c'est quoi leur regard sur cette histoire, quoi, sur cette actualité, qu'est-ce qui se passe ? Et je trouvais que... Plus je travaillais avec eux, j'ai d'abord travaillé avec eux parce que je ne les connaissais pas, ce sont des élèves du conservatoire. Et en fait, leur candeur, leur spontanéité, je dirais presque l'innocence même qu'ils avaient quand ils arrivaient en studio, je me disais, mais je peux pas, on peut pas travailler du côté du tragique avec eux, quoi. Et je les ai vraiment utilisés au très très bon sens du terme, hein, j'emploie ce mot au très bon sens du terme, dans le sens de ce que vous décrivez. C'est-à-dire que je me suis dit, effectivement, il faut qu'on arrive à... Ils ne sont pas les migrants, ils ne sont pas là pour représenter les migrants, mais qu'est-ce que je fais de cette jeunesse en fait ? Et peut-être ce que vous voyez, c'est ce que moi j'ai appelé l'innocence du projet, quoi. C'est, et les messagers, moi je les appelais les messagers en fait. Hein. Voilà, je me disais, mais si on délivre un message, c'est de se dire que quand même, dans cette atrocité, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du... J'ai pas envie de dire espoir, mais peut-être de l'ordre du lumineux, quoi. Alors peut-être c'est ça que vous voyez, c'est ça que vous décrivez comme sacré, ou voilà, une sorte de respiration, en fait. Voilà, de respiration. On étouffe, hein, avec ça. On étouffe. Donc je me disais que une entrée, quoi, une lumière, voilà, une respiration. Et ça a été toujours pour moi. En même temps, on peut pas, on s'est pas léger. Enfin, on peut pas. voilà, on est quand même dans la merde avec ça. voilà, donc il fallait aussi que ça traduise ça. Mais j'avais pas envie de rajouter une couche. Je voulais vraiment que ça soit subtil et malgré tout délicat, parce que moi personnellement, je sais pas quoi dire avec ça. Je sais pas quoi faire, si ce n'est peut-être tenter d'apporter. Un peu de douceur en fait aussi là-dedans, quoi. Enfin voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est comme ça que ça a été mon entrée, voilà.
Et en même temps, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que votre spectacle était hybride, mais moi j'ai envie de dire que c'est vraiment une hybridité théâtrale, totalement théâtrale, parce que bah, vous venez de parler de vos danseurs comme des messagers, et c'est une dimension qui est éminemment présente dans la tragédie grecque. Et qu'on retrouve dans votre spectacle, notamment dans la manière, dans la deuxième partie du spectacle, de mélanger les acteurs à ce cœur de messager, quelque part. Comment est-ce que vous avez fait ce lien, est-ce que vous l'avez fait, ce lien avec la tragédie grecque ?
Ça, c'est vraiment les propositions de Guy Kassir. Hein. Concrètement, c'était pour lui très très important, effectivement, que les acteurs se mélangent aux danseurs à la fin. Ils se retrouvent dans une église. L'idée étant que on a beaucoup parlé de la perte d'identité en fait des migrants, c'est-à-dire qu'ils partent d'un pays, ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, ils ne savent pas vers où ils vont, ils se retrouvent stockés dans des églises, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, pendant des temps vraiment infinis, à un point tel qu'ils deviennent presque ces lieux. Enfin, voilà, l'identité. Enfin, on se disait finalement on entretient un lien presque plus familier à la chaise sur laquelle on est posté, ou l'endroit dans lequel on est stocké pendant des mois. Voilà, ça devient en fait leur territoire, un nouveau territoire, donc une nouvelle identité, quoi. Et à partir de là se construit une nouvelle identité, voilà. Et donc Guy voulait que les corps disparaissent, il voulait que les corps deviennent murs. Il voulait que les corps deviennent églises, et il voulait effectivement que tous les corps soient confondus, acteurs, danseurs, etc. Et cette dimension religieuse sacrée, c'est quand même lui qui l'apporte. C'est aussi, ça fait aussi partie du travail de Jelinek, hein, dans l'écriture même de son texte. Et je pense que la mise en scène de Guy et les intentions dramaturgiques qu'il a partagées avec moi ont participé de ce que, enfin, on fait en sorte que voilà, vous, en tout cas, vous les avez vues et qu'elles soient présentes au plateau, voilà.
Parce que la pièce originale, il me semble, s'appelle Les Suppliants, en plus. Donc voilà, d'après. Et donc justement, je voudrais revenir sur cette question d'Eschyle. Oui. Je voudrais revenir sur cette question des murs que vous évoquez, qui se dressent à la fin, alors qui sont peut-être les murs d'une église, peut-être les murs d'une frontière. En tout cas, d'une frontière peut-être impossible à dépasser, que ce soit une frontière avec Dieu ou une frontière d'un territoire. Et le spectacle vivant, de manière générale, a plutôt tendance, comme dirait Rimbaud, à fixer des vertiges, à essayer de traduire finalement une sensibilité exacerbée pour en décliner toute la passion, toute la souffrance. Et dans votre travail avec Guy Cassirs, il y a quelque chose de très fort qui est ressorti dans ce que j'ai pu en saisir. J'ai l'impression qu'au contraire, vous condamnez des horizons, quelque chose de très très noir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, vous me prenez de court à chaque fois avec vos questions. Non, c'est... Il y a, je pense qu'il y a une forme d'un, ce que vous voyez de la noirceur que vous voyez, bon, elle est liée au sujet, hein, qui est pas non plus un, mais je pense qu'elle vient d'une forme d'intériorité en fait. c'est comme aussi, je crois profondément dans mon travail comme dans celui de Guy, il y a comme un espace mental en fait qui se met au travail, au plateau. Donc en fait, il y a comme peut-être la profondeur de l'âme en fait, hein, j'ai envie de dire ça. En fait, c'est peut-être ce noir-là et sur un sujet comme celui-ci, c'est évidemment une âme mélancolique. Hein, donc il y a comme ça. Peut-être c'est une couleur. Je sais pas trop quoi vous dire parce que je trouve que c'est tellement beau ce que vous dites que vous voyez ça. Je n'ai pas de travail à partir de ça, mais si ça apparaît, bah, tant mieux. Les limites, elles sont, ça s'appelle borderline, hein, le projet. Les frontières, évidemment, ça a été un sujet transversal et omniprésent dans le projet. Et je pense qu'effectivement, ce troisième tableau, quand les murs se dressent, ce sont les murs de l'église, voilà, mais qui ne ressemblent, enfin, sur le plateau, on ne voit pas une église. Même certains me disent que c'est encore le bateau, voilà. Mais on a beaucoup parlé de territoire et d'espace limité, c'est-à-dire que le paradoxe en fait de ces migrants, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se déplacer, mais ils n'avancent pas. Voilà, ils se déplacent et plus ils se déplacent et plus ça se referme sur eux. Et c'est un peu la trajectoire du projet, c'est un peu le voyage aussi que font les protagonistes du projet sur le plateau. C'est-à-dire que plus on avance dans la pièce et plus on s'enfonce, plus les migrants se déplacent et puis plus ils prennent le bateau, ils arrivent et en fait ils redescendent et ça redescend et ça s'enfonce et ça se referme sur eux et ça se referme sur eux dans cette église, voilà. Donc c'est peut-être ça en fait la noirceur, elle vient finalement du déplacement même, je dirais, de la trajectoire dramaturgique du projet. C'est que vous l'avez très bien dit, il n'y a pas d'issue, quoi. On ne sait pas où on va, on n'a pas de fin en fait, il n'y a pas de fin à ce projet, on ne sait pas en fait, on est en plein dedans et on est au cœur de cette tragédie. voilà ce que je pourrais dire.
Merci Maud Le Pladec d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
C'était Raph pour l'écho des planches.